Notre famille a fait un long voyage
en voiture cet été.
Et j'ai bien aimé mes conversations avec les douaniers à la frontière. J'ai parlé avec quelques amis à propos de ça. Combien ils sont là? Ils ont un accent drôle. J'aime bien leur accent. Ils disent, combien de temps vous allez rester ici? Et on dit toujours, pas longtemps, quelques jours.
Combien d'argent avez-vous?
Beaucoup. Non, un petit peu. Assez. On a vu que les gens sont fiers de leur pays. C'était vraiment intéressant. Les mairies classiques, les grands musées, les palais énormes, les colons. Ils sont impressionnants. Je me suis senti juste petit en comparaison. Peut-être un peu comme Daniel. Quand on entre, quand on entrait dans le passé, dans la cité de Babylone, on a vu la porte d'Ishtar, qui était la première chose qu'on voyait en arrivant à Babylone. Ce n'était pas un des sept merveilles du monde, mais c'était le huitième ou le neuvième, dans le sondage, apparemment. C'était immense, énorme, et ça vous rappelait, si vous étiez là, que Babylone était la superpuissance du Proche-Orient antique. Et vous êtes infime. C'est facile de se sentir petit ou insignifiant en face des royaumes du monde. Oh, en face des autorités universitaires. Même les bâtiments, les bibliothèques, les amphithéâtres. On peut avoir peur. La peur de l'avis des autres dans l'université. La peur de l'avis de nos amis. La peur d'être différent et petit. Comment dépasser notre peur? Mais ces chapitres peuvent nous aider. Ils nous font prendre de la hauteur, ils nous révèlent les enjeux sous une autre perspective, une perspective différente, plus large, celle de Dieu. Donc on arrive au centre du livre, au chapitre 7, 7 et 2 et 7, parce que...
Oh, c'est quoi ça?
Ah oui, c'est ça. On va creuser chapitre 2 et chapitre 7 au même temps, ok? Chapitre 7 est la charnière, pas le charnier, apparemment, que j'ai dit une fois. C'est pas le charnier, c'est la charnière du livre de Daniel. Et on va voir les visions du monde, on va voir les chapitres qui révèlent la réalité de notre monde comme elle est et pas comme l'apparence. Elle révèle la fragilité des autorités du monde et la puissance du royaume de Dieu. Ok, on va voir trois personnages dans le chapitre 2. Ok, on est à chapitre 2, donc ouvrez vos Bibles, chapitre 2, et on voit le roi, les magiciens et Daniel. Et chaque personnage nous apprend quelque chose sur la réalité de ce monde. Le roi, premièrement, le roi révèle que les autorités de ce monde sont fragiles. Le roi nous révèle que les autorités de ce monde sont fragiles. Verset 1 à 3. La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves. Il en eut l'esprit troublé et ne parvient plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai fait un rêve. Mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Ok. Il est le leader suprême, la tête de la superpuissance du Proche-Orient antique. Le roi pouvait abattre les autres royaumes, piller Jérusalem. Il peut juste appeler et ses magiciens, ses astrologues, ses sorciers, ses prêtres. Ils viennent. Mais il a du mal à dormir. Il a l'esprit troublé. Il n'arrive plus à dormir. Il ne comprend pas ses rêves. Malgré les apparences, Les puissances humaines sont toujours fragiles sur la surface. Nos leaders sont vulnérables, limités par tout puissant. Même les dictateurs sont toujours le plus fragiles. On a vu ça, même avec Macron. Il est arrivé avec éclat, et alors après, tout était pourri. Quelles sont les autorités dans ta vie? Est-ce que tu es conscient de leurs limites, de leurs faiblesses? Chaque nuit, il faut dormir. Chaque matin, il faut faire pipi. Pour eux, c'est un souvenir de leurs limites, de nos limites, de notre impuissance. Le pouvoir, les autorités de notre monde, malgré les apparences, sont fragiles. Ça, c'est le roi. Maintenant, les magiciens. Ils nous rappellent que notre connaissance est limitée. Verset 4 à 7. Verset 4. Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen. « Roi, puisses-tu vivre toujours! Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit au prêtre chaldéen, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. » En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et de grands honneurs. Est-ce que quelqu'un a un chef comme ça? Un peu dur. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication. J'aime bien la réponse. Après, le roi leur a explicitement dit de révéler le rêve et l'explication. Ils font comme si de rien n'était et ils répètent. Que le roi raconte le rêve à ses serviteurs et nous en révélerons l'explication. C'est juste ça. Le roi ne respecte pas les règles. La coutume voulait que le roi explique son rêve et les magiciens révèlent l'explication. Mais le roi soupçonne qu'ils sont des arnaqueurs. Verset 8. Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous cherchez à gagner du temps parce que vous voyez que ma décision est prise. Si donc vous ne me faites pas connaître le rêve, le même décret s'appliquera à vous tous. Vous vous êtes concertés pour me débiter des mensonges et des faussetés en attendant que les circonstances changent. C'est pourquoi dites-moi quel était le rêve et je saurai que vous êtes vraiment capable de m'en révéler l'explication. » À l'époque, les rêves, les étoiles, les signes dans le ciel ou sur la terre, dans une tasse de thé, étaient le moyen par lequel les sages comprenaient le monde, et même le futur. La magie était le moyen par lequel les magiciens, les sages, essayaient de comprendre et contrôler le futur et le monde pour le roi. Mais le roi pense qu'ils sont des arnaqueurs. Et il avait raison. Verset 10. Il dit, verset 10. Le prêtre chaldéen répondit au roi. Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue, d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mise par les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. Leur connaissance était limitée. Et tu sais que notre société utilise la science de la même façon qu'ils ont utilisé la magie. Sauf que la science marche. Et la magie ne marche pas. La science est vachement plus puissante, plus utile, plus bienfaisante que la magie. Mais quand même, la science qui a totalement transformé notre société ne nous donne ni la signification, ni le sens de la vie, ni le bien ou le mal, ni ce qui va se passer dans le futur. Et les scientifiques voient ça rarement parce qu'ils n'étudient rarement, ils n'étudient ni l'éthique, ni la philosophie, ni l'histoire. J'ai fait une licence en sciences et je n'ai pas étudié l'éthique, la philosophie, l'histoire de la science. Stephen Hawking, un scientifique extraordinaire, a créé un livre qui s'appelle The Grand Design, dans lequel il déclare la fin de la philosophie, la mort de la philosophie. Parce que la science l'a supplanté. Puis au final, ils ont quand même écrit un livre rempli d'idées philosophiques. Sans s'en rendre compte. C'était incroyable. Mais la science, notre connaissance, qui surpasse celle de toutes les autres époques, est limitée. Vous vous souvenez du printemps arabe? Ça fait 8 ans maintenant, les médias sociaux allaient changer le monde. Google explique beaucoup de choses, mais pas le sens de nos vies. Pas le bien et le mal, pas ce qui va se passer dans le futur. La technologie est limitée, notre connaissance est limitée. Et c'est juste une petite parenthèse. On compatit avec ces magiciens ici, n'est-ce pas? Oui, un peu, on est pauvres. Parce qu'ils sont impuissants, incapables de comprendre le rêve du roi. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a la même compassion pour les gens de notre société qui ne comprennent pas le sens de leur vie? Est-ce qu'on voit notre société comme ça, ou notre société comme Jésus l'a vu? Comme des brebis qui n'ont pas de berger. On a besoin de cette compatie pour notre société. Mais maintenant, on voit comment Daniel répond. Et on n'a pas le temps de lire tout le texte, mais l'exemple de Daniel en face des défis nous enseigne. On voit premièrement, parce qu'un des buts des livres de Daniel est de montrer comment vivre dans un monde comme ça, comment vivre dans un monde hostile. Et c'était avec sagesse. Sagesse tranquille. Le roi envoie Arjouk, le responsable des gardes du roi, qui arrive aux chambres de Daniel, peut-être avec une hache, pour mettre à mort les sages de Babylone. Mais Daniel lui dit, au verset 14, Daniel s'adresse alors avec bon sens et tact à Arjouk, le responsable du garde du roi. Prenons la parole et dit à Arjouk, verset 15, l'officier et du roi, pourquoi le décret du roi est-il si sévère? Tu vois qu'il répond avec bon sens et tact. Il demande, juste après, il demande au roi de lui accorder un délai. Il répond avec sagesse, avec tranquillité. Une sagesse tranquille, limite provocative, voire choquante. Il est juste là, il est calme face à l'urgence. Il ne réagit pas avec outrage ou colère. Pourquoi coupe-t-il nos têtes? Ou il ne répond pas avec terreur. On va tous mourir! Mais avec calme. Avec calme. Avec tact. Souvent, les chrétiens réagissent de façon excessive. Tout le monde est contre nous! C'est pas vrai. C'est pas vrai tout le temps. Moi, j'ai besoin d'apprendre ça, la sagesse tranquille. J'ai besoin de digérer cet enseignement. De ne pas être déstabilisé trop facilement. On voit sa sagesse. On voit sa dépendance à Dieu. Verset 18. Il invite très vite, il invite ses amis à implorer la compassion de Dieu. Sa première réaction est de prier Dieu. Et d'inviter les autres à prier aussi. Pour moi, malheureusement, c'est souvent ma dernière action quand tous mes efforts n'ont pas marché. Ok, je prie. Et pour lui, c'est sa première réaction. On voit sa confiance en Dieu, sa dépendance à Dieu. Et il y a beaucoup d'avantages à vivre dans une société riche comme la nôtre, mais un des désavantages est qu'on est habitué à être indépendant. Notre société nous forme à ne pas prier et avoir confiance en nos capacités. Parce qu'on peut se débrouiller la plupart du temps. Au lieu de venir vers Dieu en priant, Daniel nous enseigne à aller vers Dieu dans la prière. La sagesse, la dépendance, et maintenant on voit son témoignage. Daniel donne l'explication du rêve. Dieu donne l'explication du rêve à Daniel pendant son rêve. Et Daniel bénit Dieu avec un court psaume après ça. Et Daniel, regardez comment Daniel explique. Un roi paye un polythéiste. Les limites des sages et la souveraineté de la puissance de Dieu. Verset 27. Daniel fit cette réponse devant le roi. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Tu vois que Daniel ne cache pas sa vision du monde. Il n'a pas dit, j'ai beaucoup réfléchi, je comprends ton rêve maintenant. Il explique d'où son explication vient, de Dieu. Il ne s'auto-censure pas, il ne supprime pas toute référence à Dieu dans sa réponse au roi. Il témoigne de ce que Dieu lui a donné. Il arrive à parler de Dieu d'une manière qui fait sens pour le roi. Et ça, c'est son témoignage. On voit la sagesse de Daniel, la dépendance de Dieu et le témoignage de Daniel maintenant. Il nous a enseigné. Et maintenant, on voit les rêves. On va creuser les rêves. Les prophéties qui révèlent la réalité du royaume de Dieu. Maintenant, on va faire un zoom en arrière. C'est un peu comme... Je vais faire ça encore jusque là. Comme ça. Pour voir un changement de perspective. De l'humain au divin. Et on va voir la réalité telle qu'elle est, vue par Dieu. Donc, on a parlé de la structure en sandwich, concentrique, chiasmatique. J'ai créé des mots. Et en fait, le rêve du Nebu, c'est presque la même vision de Daniel. On va voir une succession des empires. Je vais lire chapitre 2, 31 jusqu'au 35, le rêve de Nebuchadnezzar. Et après, Adrien va lire chapitre 7, verset 1 à 7. Et maintenant, chapitre 2, 31 à 35. Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la belle qui échappe du nerf de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. La signification du rêve n'est pas trop difficile avec l'explication que Daniel nous donne, et dans l'explication un peu plus tard, juste verset 36. Voilà quel était le rêve, nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois parce que Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la force et la gloire. Elle a placé sous ta domination. Elle a placé sous ta domination où qu'il habite, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux, la tête en or, c'est toi. Et Daniel explique que le royaume de Nebuchadnezzar, la partie de la statue en or, va être suivi par un autre royaume, la partie de la statue en argent, et puis par un autre, la partie de la statue en bronze, et ensuite par un autre royaume de fer, et puis un autre royaume mélangé de fer et d'argile. Beaucoup de temps et beaucoup d'encre ont été utilisés afin d'identifier les royaumes dans ces statues. Peut-être, on pense que le 4e, 5e empire, mélangé avec fer et argile, était l'Union européenne, mélangé des peuples. Peut-être on était là maintenant. Mais les gens ont pensé aussi que c'était l'Empire britannique, l'Empire français, les États-Unis, la Russie communiste, la Russie, la Chine communiste. Ils ont pensé que le 4e, 5e empire était le communisme, ou le capitalisme, ou la globalisation. Mais il me semble que c'est clair que c'était, on voit une succession des empires ici, comme Daniel a expliqué, va être suivi par un autre empire. La partie de la statue en haut, c'est Nebuchadnezzar. OK. Et donc, c'est qui mon trou? On a vu peut-être que c'est un peu comme ça. C'est qui? Ça, c'est la statue. J'ai pas fait ça, mais c'est joli. Ils ont pensé que l'empire babylonien, l'empire médiépeuche, l'empire grec, l'empire romain. En fait, et ça, c'est leur. L'empire médiépeuche, blablabla. Si tu aimes bien l'histoire, tu peux regarder cette. Petite carte un peu plus tard. Mais on loupe l'idée centrale si on passe tout notre temps à identifier les autres royaumes. OK? Parce qu'on va voir, on va écouter maintenant le chapitre 7, verset 1 jusqu'au 7. Adrien. Une voix forte! S'il vous plaît. Chapitre 7, verset 1.
Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Il s'agissait de visions. Il consigna le rêve par écrit pour en raconter l'essentiel. Voici le récit de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais et voici que les quatre vents du ciel agitaient la grande mer. Quatre bêtes énormes, différentes l'une des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, les ailes furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule trois côtes entre les dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange beaucoup de chair !» Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard avec quatre ailes d'oiseau sur le dos et quatre têtes. Le pouvoir lui fut donné. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête, effrayante, terrifiante et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents en fer, dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes.
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a mangé le jour avant? quel rêve, quelle vision. Évidemment, c'est une vision. Et ma question est, qu'est-ce que les descriptions des royaumes dans les rêves, les matières, le rêve du statue en or, et les rêves de Daniel. Qu'est-ce que les descriptions des royaumes, les matières et les bêtes, nous révèlent sur les royaumes humains, les empires, la succession des empires? Est-ce que ce côté-là, tu peux passer un peu de temps en parlant de chapitre 2, la vision et les matières, qu'est-ce qu'il nous révèle? Et ce côté-là, les bêtes, qu'est-ce qu'il nous révèle sur les royaumes humains? Vous avez compris la question un peu? OK. 30 secondes, 1 minute.
Thank you.
Ok, mes excuses, on n'a pas de temps pour creuser un peu plus profondément. Et le premier F, les matières comme l'or, l'argent, le bronze, le fer, l'argile. Qu'est-ce qu'il nous revient? Des idées? Oui.
Succession des empires différents et de, avec pas les mêmes propriétés, je dirais.
Ok, donc ça distingue les empires avec les différentes propriétés, oui. Ok. Oui. Oui, c'est ça. Il y a une succession de fragilité, peut-être. On peut voir. Oui. Oui. C'est intéressant. Et il me semble aussi, je crois qu'il y a quelque chose avec les deux réponses ici. Et c'est aussi, il me semble que l'or, c'est assez impressionnant. C'est la fragilité qui vient. Mais aussi l'or, l'argent, le bronze. C'est pas. Toutes les statues, pardon?
Ils sont de moins en moins impressionnants.
Moins en moins impressionnants, mais au début, assez impressionnants. La réalité pour Daniel et ses amis-là était impressionnante. L'or. Mais Dieu a dit, même s'ils sont impressionnants, et même si ça en met plein de vue, ça en jette un peu, toi, tu te sens petit devant eux. Mais ça ne va pas durer. Et j'ai vu la parade du 14 juillet à Paris une fois. Est-ce que quelqu'un a, est-ce qu'il y a des autres qui ont vu ça? Bah, pourquoi pas? Bah, comment? Bah, c'est un peu la même chose, c'est impressionnant. Les soldats, les avions, les tanks, c'était impressionnant, intimidant. Et c'est un peu le même pour notre groupe dans les universités, les bâtiments, les bibliothèques, les autres associations qui sont peut-être grandes. Et on a un petit groupe de 4 ou 5. On est petit. Ils sont impressionnants, mais comme le rêve nous révèle, en fait, ils se fragilisent, non? Ils deviennent un peu de plus en plus fragiles. Les animaux bizarres, qu'est-ce que les animaux nous révèlent? Pardon? Une force? Oui, il y a une force là. C'est un peu intimidant. La sauvagerie? Oui, c'est ça, les autres?
Oui, on a dit que c'était tous des prédateurs.
Des prédateurs, oui, c'est ça, des prédateurs qui attaquent les hommes. Oui, c'est ça, Daniel. Encore une fois, un peu plus. J'ai pas entendu le dernier mot. Je ne peux pas écouter.
Le premier animal,
oui.
Il sera plus doux.
Il sera plus doux. OK. Donc, au contraire, au premier, c'est une augmentation, une hausse de force, de terreur. Intéressant, oui, c'est ça. C'est intéressant. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon, ok. Ils sont menaçants, intimidants, dangereux. Ces royaumes sont parfois contre le peuple de Dieu. Ils les persécutent. Au lieu d'être créés à l'image de Dieu, ils ont un mélange de bêtes dangereuses. Mais les empires humains restent pas très importants pour nous maintenant. C'est un peu comme... En fait, je vais expliquer un peu plus tard. C'était... Les autres royaumes étaient les bêtes. Ils ont abusé du pouvoir qu'ils ont eu, comme tous les royaumes. Et en tant qu'être humain, on est déchu. On est moins que ce qu'on est censé être. On est diminué. On est moins qu'humain. Et c'est ça, c'est un aspect très important ici. Mais en fait, écoute maintenant ce qui se passe pour ces royaumes. Chapitre 2, verset 44, et après chapitre 7. Chapitre 2, verset 44. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination dans notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Et chapitre 7, chapitre 7, verset 9, chapitre 7, verset 9. Pendant que je regardais, On a placé des trônes, et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flamme, et ses rues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient, et des centaines de milliers se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis, et des livres ont été ouverts. Je le regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Malgré les apparences, malgré la puissance apparente de ces royaumes, ils ne vont pas durer. Ils vont être dépassés. Ils vont être vaincus, pulvérisés, couverts par la poussière de l'histoire. Ça, c'est le pot d'Ishtar. Maintenant, où est le royaume de Babylone maintenant? Salle 36 dans le musée de Pergamon à Berlin. Ça, c'est le royaume de Babylone. Où est le royaume de Dieu? Ici. Partout. Et plus grand que jamais. Là où il y a des chrétiens. Est-ce qu'on voit notre Dieu tel qu'il est? On a vu hier la transcendance de Dieu. Ce royaume est une pierre qui va pulvériser tous les autres royaumes, qui va devenir une grande montagne. Il est là, cette image. Le Créateur souverain, au-delà de tout, l'ancien des jours sur son trône, de flamme, le feu, les juges, les livres. C'est une image du jugement de Dieu sur tous les rois, les autres royaumes, sur toute l'humanité. Il est tout puissant. Dieu est fort et puissant. Mon ami était à l'aéroport une fois. Ça fait 15-20 ans maintenant. Et il a noté qu'il a été écrit sur le tarmac. Le tarmac où il y a beaucoup de les petites voitures avec les petites valises. Il a noté qu'il y a, au milieu de toute la signalisation, juste un petit panneau, céder le passage au Boeing 747. À l'époque, c'était le plus grand avion. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin de ce panneau. Est-ce qu'on a besoin de ce panneau? Quand tu es en face d'un 747, il n'y a pas de question qui va céder. C'est pas le 747. Si tu dis, mais c'est moi qui a la priorité, je vais... Le pilote du 747 va être comme ça. Vraiment comme ça. Le royaume de Dieu est l'ancien des jours. Et comme un 747 en comparaison avec le petit royaume humain. Malgré les royaumes menaçants, le royaume de Dieu est suprême. Rappelez-vous, quand on est à l'université, quand on est intimidé par les grands bâtiments, les bibliothèques, nos profs, les autres, quand on est en face de notre prof, de notre chef, on les honore, on les respecte, mais on n'a pas peur d'eux. On n'a pas peur de ce qui nous entoure. Dieu a le contrôle. Dieu est le 747. Une grande pierre va tomber sur toi. Le royaume de Dieu est suprême et va triompher et durer jamais. Mais il est différent des autres royaumes. On voit ça dans le texte. Et on voit ça dans les textes suivants. Les textes, les versets peut-être le plus important de l'Ancien Testament. Peut-être pas. C'est un des versets. C'est incroyable. Versets 13 à 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien du jour et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. C'est un des textes clés de l'Ancien Testament. Quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, c'était une figure humaine. Et on dit ensemble,
oh, c'est Jésus!
Eh oui, c'est le titre que Jésus a utilisé pour lui-même. Les autres royaumes étaient les bêtes. Ils ont abusé du pouvoir qu'ils ont eu. Mais Jésus est l'être humain qu'on ne peut pas être. C'est vrai, à l'époque de Jésus, les Juifs attendaient un Messie qui viendrait vaincre l'Empire romain, un roi guerrier. Mais si l'histoire s'était passée comme ça, on n'aurait que remplacé un royaume physique par un autre. C'est comme si on ajoutait une autre partie de la statue au nord. Ou un autre animal, mais plus grand, plus féroce que les autres bêtes. On a vu que le royaume de Dieu est différent aux autres royaumes. Jésus a dit à Ponce Pilate que mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, verset 36. Ce royaume est différent, comme les prophéties dans la Bible ont promis. On voit là avec les promesses à Abraham, qui est vraiment au début de le projet d'Israël, et la promesse à David, qui était à l'apogée. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu vois là, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Les autres royaumes étaient limités géographiquement, ethniquement, mais pas le royaume de Jésus. Et ils n'ont pas duré, mais pour David, Dieu lui a dit, j'affermerai pour toujours le trône de son royaume, une domination éternelle. Jésus était. Mais si tu étais là, tu pensais, oh, c'est quoi la promesse à Abraham? C'est quoi la promesse à David? Tout est pourri maintenant. Mais en fait, la promesse que Daniel nous a donnée, c'était là. Même si la réalité était vraiment pourrie comme ça, la promesse qui était là, et finalement, il a été accompli en Jésus là. On n'a pas besoin d'un roi guerrier, parce que notre problème, comme on sait, est dans nos cœurs, dans notre égoïsme, d'où viennent toutes les guerres et problèmes de notre monde. Ils viennent de notre cœur. On a besoin de Jésus. C'est Jésus qui est le centre de la Bible. Et c'est par Jésus que toutes les bénédictions que Dieu nous donne sont offertes à tous. Jésus dit, il nous a donné une autre petite image du royaume de Dieu, complémentaire. Il dit encore, à quoi comparons-nous le royaume de Dieu et par quelle parabole le représentons-nous? Il est comme un grain de moutarde. Lorsqu'on l'a sémenté, c'est le plus petit de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'elle a été sémée, elle monte, devient plus grande que tous les légumes et développe des grandes branches de sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sur son ombre. Ça, c'était le royaume de Jésus, le centre de la Bible. Son royaume englobe tous les peuples, les nations, les hommes, et sa domination était éternelle. Jésus ne triomphe pas comme Nebuchadnezzar, en menaçant avec la mort, mais en prenant notre mort sur lui. Et son royaume avance pas en écrasant les autres peuples, mais en faisant des disciples. Tu vois, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, comme Daniel 7, versets 13 et 14. Allez, fais de toutes les nations des disciples. Ma question pour nous, est-ce que tu es dans ce royaume? Est-ce que Jésus est ton roi? Et si oui, est-ce que tu donneras ta vie pour son royaume, pour l'avancement de son royaume, dans ton boulot, dans ton église, parmi tes amis, avec ta famille? Est-ce que tu vas donner ta vie pour son royaume? Pour quel royaume est-ce que tu vas vivre? Je vais juste m'arrêter ici. S'il y a un ou deux questions, désolé, c'était une expérience énorme, mais juste s'il y a juste une ou deux minutes. pour une question ou deux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous ai fatigué. Excellent. J'étais dans un groupe, dans une salle commune à Paris. Et on a fait notre groupe un peu clandestinement. On a laissé nos bibles chez nous. On a utilisé nos portables, juste comme ça. Bon, on est juste ensemble, des amis. Pas grand-chose de ce qui se passe ici. On est juste là. On a eu un peu peur. Mais au fur et à mesure, on est devenu un peu plus courageux. On a laissé ouvert nos bibles sur la table. Parce qu'on s'est rendu compte, en lisant l'évangile de Luc, qu'en fait, on a le doigt devant Dieu. On peut lire la Bible ensemble et on peut être ouvert. On a parlé un peu plus fort, pas trop, mais c'était une salle de travail commun, donc on avait le doigt. On a parlé un peu plus fort, on a rigolé ensemble, on est devenu ouvert. Et en fait, un étudiant musulman nous a vus. Et nous ont approché et demandé ce qu'on faisait. Et il nous a rejoint pendant quelques heures. Et on est devenu amis avec lui et ses amis aussi. On a eu peur. Mais on s'est rendu compte que Dieu est fort. Dieu est puissant. Pas besoin d'avoir peur des autorités, des amis, de nos amis. Non, non, non. Dieu est fort et puissant. Il va faire avancer son royaume. Prions. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous révèle la réalité telle qu'elle est. Aide-nous à voir le monde comme tu le vois et vivre comme tu le veux. Enlève notre peur. Enlève notre crainte par le pouvoir de ton esprit. Amen.